Chapitre deuxième. Qui est celui des suppositions? Le dimanche suivant, à 2 heures de l'après-midi, j'introduisais ma femme dans le laboratoire du passage des patriarches et, au bout d'une demi-heure, nous formions à trois une association pour laquelle rien d'impossible n'existait plus. Le père Sogol avait à peu près terminé ses mystérieux calculs, mais il en réservait l'exposé pour un peu plus tard, quand tous les invités seraient là. En attendant, nous convînmes de nous décrire l'un à l'autre les personnes que nous avions convoquées. Ivan Laps, 35 à 40 ans, russe, d'origine finnoise, linguiste remarquable. Remarquable surtout entre tous les linguistes parce qu'il était capable de s'exprimer, oralement ou par écrit, avec simplicité, élégance et correction. Et cela dans 3 ou 4 langues différentes. Auteur de la langue des langues et d'une grammaire comparée des langages de gestes.
Un petit homme pâle, le crâne allongé et chauve, couronné de cheveux noirs, des yeux noirs, obliques et longs, le nez fin, le visage rasé, la bouche un peu triste.
Excellent glaciériste. Il avait un faible
pour les bivouacs en haute montagne.
Alphonse Camard, français, 50 ans, poète fécond et estimé, barbu, gras de poitrine, avec un air de veulerie un peu verlainienne que rachetait une belle voix chaude.
Une maladie de foie lui interdisant les longues courses, il s'en consolait en écrivant de beaux bohèmes sur la montagne.
Émile Gorge, français, 25 ans, journaliste, mondain, insinuant, passionné de musique et de chorégraphie.
Sur quoi il écrivait brillamment.
Virtuose du rappel de cordes, préférant la descente à la montée, petit bizarrement bâti avec un corps maigre et un visage grassouillé, une bouche épaisse et pour ainsi dire sans menton.
Judith Pancake.
Enfin. Une amie de ma femme, américaine, une trentaine d'années, peintre de haute montagne. Elle est d'ailleurs le seul véritable peintre de haute montagne que je connaisse. Elle a très bien compris que la vue que l'on a d'un haut sommet ne s'inscrit pas dans les mêmes cadres perceptifs qu'une nature morte ou un paysage ordinaire. Ces toiles expriment admirablement la structure circulaire de l'espace dans les hautes régions. Elle ne se prend pas pour une artiste. Elle peint simplement pour garder des souvenirs de ses ascensions. Mais elle le fait avec une telle conscience artisane que ses tableaux, avec
leur perspective courbe,
rappellent d'une façon frappante ces fresques où les anciens peintres religieux
essayaient de représenter les cercles concentriques des mondes célestes.
Du côté de Sogol, c'était, d'après sa description,
Arthur Beaver,
de 45 à 50 ans, médecin, yachtman et alpiniste, donc anglais. Connaît les noms latins, les mœurs et les propriétés de tous les animaux et de toutes les plantes, de toutes les hautes montagnes du globe. N'est vraiment heureux qu'au-dessus de 15 000 pieds d'altitude. Il m'a interdit de publier combien de temps et à l'aide de quoi il était resté au sommet de quel pic de l'Himalaya parce que, disait-il, en tant que médecin, que gentleman et que véritable alpiniste, il se méfiait de la gloire comme d'une peste. Il avait un grand corps osseux, des cheveux or et argent, plus pâle que son visage tanné, des sourcils haut perchés et des lèvres qui ondulaient finement entre la naïveté et l'ironie.
Hans et Karl.
Deux frères, on ne prononçait jamais leur nom de famille, d'environ 25 et 28 ans respectivement autrichiens, spécialistes des escalades acrobatiques. Blonds tous les deux, mais le premier dans le genre ovoïde, le second dans le genre rectangulaire. Des musculatures intelligentes avec des doigts d'acier et des yeux d'aigle. Hans faisait des études de physique, mathématiques et d'astronomie.
Karl
s'intéressait surtout aux métaphysiques orientales.
Arthur Beaver,
Hans et Karl étaient les trois compagnons dont Sogol m'avait parlé et qui formait avec lui une insécable équipe.
Julie Bonas,
25 à 30 ans, belge, actrice. Elle avait alors d'assez beaux succès sur les scènes de Paris, de Bruxelles et de Genève. Elle était la confidente d'une nuée de jeunes gens falots.
Qu'elle guidait dans les voies de la plus sublime spiritualité.
Elle disait
« J'adore Ibsen. »
Et
« J'adore les éclairs au chocolat. »
Avec un ton d'égale conviction qui vous mettait l'eau à la bouche. Elle croyait à l'existence de
« La fée des glaciers. »
Et l'hiver skiait beaucoup dans les stations à téléphérie. Benito Chicoria, une trentaine d'années, tailleur pour dames à Paris. Petit coquet et hégélien. Bien qu'italien d'origine, il appartenait à une école d'alpinisme que l'on pourrait grosso modo appeler l'école allemande. Pour ainsi résumer la méthode de cette école, on attaque la face la plus abrupte de la montagne par le couloir le plus pourri et le plus mitraillé par les chutes de pierre. Et l'on monte vers le sommet tout droit, sans se permettre de chercher des détours plus commodes à gauche ou à droite. En général, on se fait tuer, mais un jour ou l'autre, une cordée nationale arrive vivante à la cime. Avec Sogol, ma femme et moi, cela faisait
12 personnes.
Les invités arrivèrent à peu près à l'heure. Je veux dire par là que le rendez-vous ayant été fixé à 4 heures, Monsieur Beaver était là
à 3h50.
Et que Julie Bonas, la dernière arrivée, bien qu'ayant été retenue par une répétition, avait fait son apparition à peine sonnée la demie de 5 heures. Après le brouhaha des présentations, on s'installa autour d'une grande table à tréteaux et notre hôte prit la parole. Il rappela les grands traits de la conversation qu'il avait eue avec moi, affirma sa conviction de l'existence du mont analogue et déclara qu'il allait organiser une expédition. Pour l'explorer, la plupart d'entre vous, poursuivit-il, savent déjà la manière dont j'ai pu, en première approximation, limiter le champ de recherche. Mais deux ou trois personnes ne sont pas encore au courant. Et pour elles, et aussi pour rafraîchir la mémoire des autres, je vais reprendre l'exposé de mes déductions. Il me lança là-dessus un regard à la fois malicieux et autoritaire, qui exigeait ma complicité à cet adroit mensonge. Car personne n'était au courant de rien, bien entendu. Mais par cette simple ruse, chacun avait l'impression de faire partie d'une minorité ignorante, d'être un des deux ou trois qui n'étaient pas au courant, croyait sentir autour de lui la force d'une majorité convaincue, et avait hâte d'être convaincu à son tour. Cette méthode de Sogol pour mettre, comme il me le dit plus tard,
l'auditoire dans sa poche, était une simple application,
disait-il,
de la méthode mathématique, qui consiste à considérer le problème comme résolu.
Ou encore, sautant dans la chimie,
un exemple d'une réaction de proche en proche.
Mais si cette ruse était au service de la vérité, pouvait-on encore l'appeler mensonge? Toujours est-il que chacun tendit ses plus intimes oreilles.
Je résume,
dit-il,
les données du problème. Premièrement, le mont analogue doit être beaucoup plus haut que les plus hautes montagnes jusqu'ici connues. Son sommet doit être inaccessible par les moyens jusqu'ici connus. Mais, secondement, sa base doit nous être accessible. Et ses pentes intérieures doivent être habitées, d'ores et déjà par des êtres humains semblables à nous, puisqu'il est la voie qui relie effectivement notre domaine humain actuel à des régions supérieures. Habité, donc habitable. Donc présentant un ensemble de conditions de climat, de flore, de faune, d'influences cosmiques de toutes sortes, pas trop différentes de celles de nos continents. Le mont lui-même étant extrêmement haut, sa base doit être assez large pour le soutenir. Il doit s'agir d'une surface de terre au moins aussi grande que celle des îles les plus vastes de notre planète, de la Nouvelle-Guinée, de Bornéo, de Madagascar, peut-être même de l'Australie. Cela admis, trois questions surgissent. Comment ce territoire a-t-il échappé jusqu'ici aux investigations des voyageurs? Comment y pénétrer? Et où se trouve-t-il?
Je répondrai d'abord à la première question, qui peut paraître la plus difficile à résoudre. Comment il existerait sur notre terre une montagne plus haute que les plus hauts sommets de l'Himalaya? Et l'on ne s'en serait pas encore aperçu, tant nous savons, a priori, en vertu des loi de l'analogie, qu'elle doit exister. Pour expliquer que l'on ne l'ait pas encore remarqué, plusieurs hypothèses se présentent. Tout d'abord, elle pourrait se trouver sur le continent austral, encore assez mal connu.
Mais en prenant la carte des points déjà atteints de ce continent et en déterminant par une simple construction géométrique l'espace que le regard humain a pu embrasser à partir de ces points, on voit qu'une hauteur de plus de 8000 mètres n'aurait pu passer inaperçue, pas plus dans cette région qu'en aucune région de la planète. Cet argument me parut géographiquement assez discutable, mais personne, heureusement, n'y prit garde. Il poursuivit. S'agirait-il donc d'une montagne souterraine? Certaines légendes qu'on entend raconter, surtout en Mongolie et au Tibet, font allusion à un monde souterrain, séjour du roi des mondes, et où, comme une graine impérissable, se conserve la connaissance traditionnelle. Mais ce séjour ne répond pas à la seconde condition d'existence. Du moins analogue, il ne pourrait offrir un milieu biologique suffisamment voisin de notre milieu biologique ordinaire, et même si ce monde souterrain existe, il est probable qu'il se trouve précisément dans les flancs du mont analogue. Toutes les hypothèses de ce genre étant inadmissibles, nous sommes amenés à poser le problème autrement. Le territoire cherché doit pouvoir exister en une région quelconque de la surface de la planète. Il faut donc étudier sous quelles conditions il se trouve être inaccessible, non seulement aux navires, avions ou autres véhicules, mais même aux regards. Je veux dire qu'il pourrait très bien théoriquement exister au milieu de cette table.
Sans que nous en ayons la moindre notion.
Pour me faire comprendre, je me permettrai de vous donner une image analogique de ce qui doit être. Il alla dans la pièce voisine chercher une assiette qu'il posa sur la table et où il versa de l'huile. Il déchira un morceau de papier en tout petits fragments qu'il jeta à la surface du liquide. J'ai pris de l'huile parce que ce liquide, très visqueux, sera plus démonstratif que l'eau. Par exemple, cette surface huileuse est la surface de notre planète. Ce bout de papier, un continent. Ce morceau plus petit, un bateau. Avec la pointe de cette fine aiguille, je pousse délicatement le bateau vers le continent. Vous voyez que je n'arrive pas à le faire aborder. Parvenu à quelques millimètres du rivage, il semble être repoussé par un cercle d'huile qui entoure le continent. Bien entendu, en poussant un peu plus fort, j'arrive à aborder. Mais si la tension superficielle du liquide était assez grande, vous verriez mon bateau contourner le continent sans jamais le toucher. Supposez maintenant que cette invisible structure de l'huile autour du continent repousse non seulement les cordes immatérielles, mais aussi les rayons lumineux. Le navigateur qui se trouve sur le bateau va contourner le continent non seulement sans le toucher, mais même sans le voir. Cette analogie est maintenant trop grossière, laissons-la. Vous savez d'autre part qu'un corps quelconque exerce en fait une action répulsive de ce genre sur les rayons lumineux qui passent près de lui. Le fait, prévu théoriquement par Einstein, a été vérifié par les astronomes Eddington et Crumlin le 30 mai 1919 à l'occasion d'une éclipse de soleil. Ils ont constaté
qu'une étoile pourrait être encore visible alors qu'elle se trouverait déjà par rapport à nous derrière le disque solaire. Cette déviation sans doute est minime.
Mais n'existerait-il pas des substances, encore inconnues d'ailleurs, pour cette raison même, capables de créer autour d'elles une courbure de l'espace beaucoup plus forte? Cela doit être, car c'est la seule explication possible de l'ignorance où l'humanité est restée jusqu'à présent de l'existence du mont analogue. Voici donc que j'ai établi. Simplement, en éliminant toutes les hypothèses insoutenables, quelque part sur la Terre existe un territoire d'au moins plusieurs milliers de kilomètres de tour sur lequel s'élève le mont analogue. Le soubassement de ce territoire est formé de matériaux qui ont la propriété de courber l'espace autour d'eux, de telle manière que toute cette région est enfermée dans une coque d'espace courbe. D'où viennent ces matériaux? Ont-ils une origine extraterrestre? Viennent-ils de ces régions centrales de la Terre, dont nous connaissons si peu la nature physique, que tout ce que nous pouvons dire, c'est, d'après les géologues, qu'aucune matière n'y peut exister ni à l'état solide, ni à l'état liquide, ni à l'état gazeux? Je ne sais pas, mais nous l'apprendrons sur place. Tôt ou tard. Ce que je puis encore déduire, par ailleurs, c'est que cette coque ne peut pas être complètement fermée.
Elle doit être ouverte par en haut, afin de recevoir les radiations de toutes sortes venant des astres, nécessaires à la vie d'homme ordinaire.
Elle doit aussi englober une masse importante de la planète, et sans doute même s'ouvrir vers son centre, pour une raison semblable. Il se leva pour jeter un croquis sur un tableau noir. Voici schématiquement comment nous pouvons nous représenter cet espace. Les lignes que je trace représentent ce que seraient les trajets de rayons lumineux. Par exemple, vous voyez que ces lignes directrices s'épanouissent en quelque sorte dans le ciel, où elles se rejoignent à l'espace général de notre cosmos. Cet épanouissement doit se produire à une hauteur telle, bien supérieure à l'épaisseur de l'atmosphère, qu'il ne faut pas songer à pénétrer.
Dans la coque, par en haut, en avion ou en ballon.
Si maintenant nous figurons le territoire en plan horizontal, nous avons ce schéma. Remarquez que la région même du mont analogue ne doit offrir aucune anomalie spatiale sensible puisque des êtres tels que nous doivent pouvoir y subsister. Il s'agit d'un anneau de courbure plus ou moins large, impénétrable, qui à une certaine distance entoure le pays d'un rempart invisible, intangible, grâce auquel en somme tout se passe comme si le mont analogue n'existait pas. Supposons, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, que le territoire cherché soit une île. Je représente ici les trajets d'un navire allant de A à B. Nous sommes sur ce navire. En B est un phare. Du point A, je braque une lunette dans la direction de la marche du navire. Je vois le phare B, dont la lumière a contourné le mont analogue. Et je ne me douterai jamais qu'entre le phare et moi s'étend une île couverte de hautes montagnes. Je poursuis ma route. La courbure de l'espace dévie
la lumière des étoiles
et aussi les lignes de force du champ magnétique terrestre.
Si bien
que, naviguant avec le sextant et la boussole,
je serai toujours persuadé que je vais en ligne droite.
Sans que le gouvernail ait à bouger, mon navire, se courbant lui-même avec tout ce qui est à bord, épousera le contour que j'ai tracé sur le schéma de A à B.
Donc, cette île pourrait avoir les dimensions de l'Australie. Qu'il est tout à fait compréhensible maintenant que personne ne soit jamais avisé de son existence. Miss Pancake devint soudain pâle de joie.
Mais c'est l'histoire de Merlin dans son cercle enchanté. J'ai toujours été convaincue, en effet, que cette stupide histoire avec Viviane avait été inventée, après coup, par des allégoristes qui ne comprenaient plus rien. C'est par sa nature même qu'il est dissimulé à nos yeux, dans son enceinte invisible, et qu'il se trouve n'importe où.
Sogol se tut quelques secondes pour montrer qu'il appréciait vivement cet à-propos.
Oui,
dit alors Mr. Beaver.
Mais votre capitaine, il va bien remarquer, un jour ou l'autre, que pour aller de A à B, il a consommé plus de charbon qu'il n'était à prévoir.
Nullement, car en suivant la courbure de l'espace, le navire s'allonge, proportionnellement à cette courbure, c'est mathématique. Les machines s'allongent, chaque morceau de charbon s'allonge.
Oh, j'ai compris. En effet, tout revient au même. Mais alors, comment pourra-t-on jamais pénétrer dans l'île, à supposer qu'on en ait pu déterminer la position géographique?
Cela, c'était la deuxième question à résoudre. J'y suis parvenu. En suivant toujours le même principe de méthode, qui consiste à supposer le problème résolu, et à déduire de là toutes les conséquences qui en découlent. Logiquement, cette méthode, je vous le dis en passant, m'a toujours réussi. Dans tous les domaines. Pour trouver le moyen de pénétrer dans l'île, il faut poser en principe, comme nous l'avons déjà fait, la possibilité et même la nécessité d'y pénétrer. La seule hypothèse admissible est que la coque de courbure qui entoure l'île n'est pas absolument, c'est-à-dire toujours, partout et pour tous, infranchissable. À certains moments et à certains endroits, certaines
personnes
qui savent et qui veulent peuvent entrer. Le moment privilégié que nous cherchons doit être déterminé par un étalon de mesure du temps qui soit commun au mont analogue et au reste du monde. Donc par une horloge naturelle, très probablement par le cours du soleil. Cette hypothèse est fortement appuyée par certaines considérations analogiques et ce qui la confirme, c'est qu'elle résout une autre difficulté.
Reportez-vous à mon premier schéma. Vous voyez que les lignes de courbure vont s'épanouir assez haut dans l'espace. Comment donc le soleil, dans sa course diurne, pourrait-il envoyer continuellement ses radiations à l'île? Il faut admettre que le soleil a la propriété de décourber l'espace qui entoure l'île. Donc à son lever et à son coucher, il doit en quelque sorte faire un trou dans la coque. Et par ce trou, nous entrerons.
Nous restâmes tous stupéfaits devant l'audace et la force logique de cette déduction. Tous se taisaient et tous étaient convaincus.
Il y a pourtant là, pour
poursuivit Sogol.
Quelques points théoriques qui me restent obscurs. Je ne puis pas dire que je me représente parfaitement la liaison entre le soleil et le mont analogue, mais pratiquement il n'y a pas de doute. Il suffit de se poster à l'orient ou à l'occident du mont analogue, exactement à l'est ou à l'ouest, si c'est au moment d'un solstice, et d'attendre.
Selon le cas.
Le lever ou le coucher du soleil. Alors, pendant quelques minutes, tant que le disque solaire n'aura pas quitté l'horizon, la porte sera ouverte. Et je le répète, nous entrons. Il est déjà tard. Je vous expliquerai un autre jour, pendant la traversée, par exemple. Pourquoi c'est par l'ouest, et non par l'est, qu'il est possible d'entrer?
C'est à la fois pour une raison symbolique et à cause du courant d'air. Il nous reste à examiner la troisième question, où est située l'île?
Suivant toujours la même méthode, une masse de matériaux lourds, telle que celle du mont analogue et de sa substructure, devrait provoquer dans les divers mouvements de la planète des anomalies perceptibles, plus importantes, d'après mes calculs, que les quelques anomalies observées jusqu'ici. Pourtant, cette masse existe, donc cette anomalie invisible de la surface terrestre doit être compensée.
Par une autre anomalie.
Or, nous avons la chance que précisément cette anomalie compensatrice soit visible, si visible même, qu'elle a depuis longtemps sauté aux yeux.
Des géologues et des géographes.
C'est la bizarre répartition des terres émergées et des mers qui partagent à peu près notre globe. On a un hémisphère des terres et un hémisphère des mers.
Pris sur une étagère un globe terrestre et le posa sur la table.
Voici le principe de mes calculs. Je trace d'abord ce parallèle entre 50 et 52 de latitude nord. C'est celui qui parcourt la plus grande longueur des terres émergées. Il traverse le sud du Canada, puis tout le vieux continent depuis le sud de l'Angleterre jusqu'à l'île Sakhalin. Je trace maintenant le méridien qui traverse la plus grande longueur de terres émergées. Il se trouve entre le 20e et le 28e degré de longitude est à travers l'ancien monde, à peu près du Spitzberg à l'Afrique du Sud. Je lui laisse cette marge de 8 degrés parce qu'on peut tenir compte de la Méditerranée comme mer proprement dite ou comme simple enclave maritime dans le continent. D'après certaines traditions, il faudrait faire passer ce méridien exactement par la grande pyramide de Khéops. Peu importe pour le principe. La fonction de ces deux lignes, vous le voyez, se fait quelque part en Pologne orientale, en Ukraine ou en Russie blanche. Dans le quadrilatère Varsovie-Cracovie-Minsk-Kiev.
Merveilleux !
S'écria Sikoria, le tailleur hégélien. Je comprends. Comme l'île cherchée a sûrement une superficie plus grande que ce quadrilatère, l'approximation est suffisante. Le monde analogue se trouve donc aux antipodes de cette région. Ce qui le situe, attendez que je calcule un peu. Là, au sud-est de la Tasmanie et au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. À l'est de l'île Auckland.
Bien raisonné, dit Sogol. Bien raisonné, mais un peu trop vite.
Ce serait exact si les terres émergées avaient une épaisseur uniforme. Mais supposons que nous découpions sur un planisphère en relief.
L'ensemble de ces grandes masses continentales et que nous suspendions le tout par une ficelle fixée dans le quadrilatère central. Il est à prévoir que les grandes masses montagneuses américaines, eurasiatiques et africaines, presque toutes situées plus bas que la 50e parallèle, vont faire pencher fortement le planisphère du côté du sud. Le poids de l'Himalaya, des monts, de Mongolie et des massifs africains va même peut-être l'emporter sur les montagnes américaines et faire pencher la balance.
Quelque peu vers l'est.
Mais je ne le saurai qu'après des calculs plus minutieux. Il faut donc déplacer le centre de gravité des terres émergées fortement vers le sud.
Peut-être un peu vers l'est. Cela peut nous mener vers les Balkans, ou même jusqu'à l'Égypte, ou vers la Chaldée, vers le lieu de l'Éden biblique, mais ne présumons de rien. De toute façon, le mot analogue reste dans le Pacifique Sud. Je vous demande encore quelques jours pour mettre mes calculs au point d'une façon définitive. Ensuite, il nous faudra quelques temps pour les préparatifs, tant pour ceux de l'expédition que pour permettre à chacun d'arranger ses affaires personnelles en vue de ce long voyage. Je propose de fixer
le départ vers les
premiers jours d'octobre. Cela nous laisse deux bons mois devant nous. Et ainsi, nous arriverons dans le Pacifique Sud en novembre. C'est-à-dire, au printemps. Reste à régler une foule de problèmes secondaires, mais non sans importance. Par exemple, les moyens matériels de l'expédition. Arthur Beaver dit rapidement, « Mon yacht, impossible, est un bon petit bateau. Il a fait le tour du monde, il nous mènera bien jusque-là. Quant à l'argent nécessaire, on verra cela ensemble. Mais dès maintenant, je suis certain qu'on aura tout ce qu'il faudra. » Pour ces bonnes paroles, dit le père Sogol, vous aurez droit, mon cher Arthur, au titre de rédempteur des milliardaires. N'empêche que nous aurons du travail. Il faudra que chacun y mette du sien. Fixons, si vous voulez bien, notre prochaine entrevue à dimanche. Prochain, à 14h. Je vous communiquerai le résultat de mes derniers calculs et nous tracerons un plan d'action. Là-dessus, on but un verre ou deux, on fumait une cigarette et par la lucarne et la corde, chacun s'en alla, tout songeur, de son côté. Rien d'indispensable à rapporter ne se passa dans la semaine suivante, sauf pourtant quelques lettres. D'abord un petit mot, mélancolique, du poète Alphonse Camard. Il regrettait que son état de santé ne lui permet pas tout bien pesé de nous accompagner. Il voulait pourtant participer à l'expédition à sa manière et pour cela m'envoyer quelques chansons de route des montagnards, grâce auxquelles, disait-il, sa pensée nous suivrait dans cette magnifique aventure. Il y en avait de tous les tons et pour toutes les circonstances alpines, je vous citerai celle que j'ai le plus goûtée, bien que sans doute, si vous n'avez jamais connu les petites misères en question, vous allez trouver cela stupide. C'est en effet stupide, mais comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Complainte des alpinistes malchanceux. Le thé sans l'aluminium. 12 paillasses pour 30 hommes. C'est vrai que ça tenait chaud, mais ils sont partis plus tôt. Dans l'air, en lame de rasoir, entre le blanc et le noir. Ma montre s'est arrêtée, la tienne s'est embrouillée. On est tout gluant de miel. Il y a des grumeaux dans le ciel. On part qu'il fait jour déjà. Le névé jaunit déjà. Les cailloux pleuvent déjà. Il y a du froid dans la main lourde. Il y a du pétrole dans la gourde. Il y a de la gourde dans les doigts. Et la corde a des raideurs, des rissons de ramoneurs.
La cabane était puceuse et disgracieux les ronfleurs. J'ai la gelure à l'esgourde. Tu as l'air d'une macreuse. Je n'ai pas assez de poche. Tu retrouves ma boussole dans un noyau de pruneau. J'ai oublié mon couteau.
Mais tu as ta brosse à dents. Il y a 25 000 heures qu'on monte. Et on est toujours en bas. En pâté de chocolat.
Une taille au champ de verglas. Nous grippons dans du fromage.
Il y a de l'acreur dans le nuage. On y voit blanc à deux pas. Halte un peu qu'on se ménage. Voilà mon sac qui s'ébat. Et me décrochant le cœur, il gambade vers l'en bas. Il y a des trous plus noirs que verts. Glou glou. Des chemins de fer, 10 000 sacs sur la moraine,
des faux sacs et des vrais trous et des sales gros crocs en jambes.
Enfin, voilà mon chaos, mais t'as bouilli sur mon dos. Mutissons-nous de noyaux de prudence et de pruneaux. La rimale va crever de rire, nous enfonçons jusqu'aux barbes. Voilà l'espace qui grésille, on s'est crompé de touloir. Nos genoux claquent des dents. Le gendarme se défend. J'ai un bloc dans la mémoire. Un surplomb dans l'estomac. On ne peut plus dire que soif. Et j'ai deux gros doigts verts pâles. On n'a pas vu le sommet. Sauf la boîte de sardines. On coinçait tous les rappels. On passait sa vie entière à démêler la ficelle. On est tombé dans des vaches. Vous avez fait une jolie course, épatante, monsieur, mais dure. J'ai reçu aussi une lettre d'Émile Gorge, le journaliste. Il avait promis à un ami de le rejoindre dans l'Oisans au mois d'août pour faire avec lui la descente du pic central de la Mégée par le versant méridional. On sait qu'une pierre lâchée de ce sommet vers le sud met 5 ou 6 secondes avant de toucher le rocher. Après quoi, il devait faire un reportage au Tyrol, mais il ne voulait pas que nous retardions notre départ à cause de lui. Et d'ailleurs, restant à Paris, il s'offrait à placer dans des journaux tous les récits que nous voudrions lui envoyer de notre voyage. De son côté, Sogol avait reçu une très longue et très émouvante, et vibrante, et pathétique, missive de Julie Bonnas. Déchirée, entre le désir de nous suivre et son art à servir. C'était le plus cruel sacrifice que le dieu jaloux du théâtre lui eût jamais demandé. Et peut-être se serait-elle révoltée, aurait-elle suivi son penchant égoïste. Mais que seraient devenus ces pauvres chers petits amis dont elle avait entrepris de soigner les âmes souffrantes ?
Quoi ?
M'avait dit Sogol après m'avoir lu cette lettre. Cela ne vous tire pas les larmes des yeux ? Vous êtes donc tellement endurci que votre cœur ne fond pas comme de la bougie. Quant à moi, l'idée qu'elle hésitait peut-être encore m'a tellement ému que je lui ai aussitôt écrit pour l'encourager à rester avec ses âmes et ses sublimités. Enfin, Benito Sicoria lui avait aussi écrit. Un examen approfondi de sa lettre qui avait 12 pages nous amena à cette conclusion qu'il avait décidé, lui aussi, de ne pas nous accompagner. Ses raisons étaient exposées en une série de triades dialectiques, vraiment architecturales. Impossible de les résumer. Il faudrait pour cela suivre toute sa construction et c'est un exercice dangereux. Je citerai une phrase au hasard. Bien que la triade, possible, impossible aventure, puisse être regardée comme immédiatement phénoménisable, et donc phénoménisante, par rapport à la première triade ontologique, elle ne l'est que sous la condition, à vrai dire épistémologique, d'un reversus dialectique dont le contenu prédiscursif n'est autre qu'une prise de position historique impliquant la réversibilité pratique de la procession ontologiquement orientée. Implication que seuls les faits peuvent justifier.
Bien sûr, bien sûr. En somme, 4 dégonfleurs, dirait le populaire.
Nous restons 8.
Sogol me confia qu'il s'était attendu à quelques lâchages. C'est même pour cela qu'il avait prétendu, lors de notre grande réunion, que ses calculs n'étaient pas achevés, alors qu'ils l'étaient. Il ne voulait pas que la position géographique exacte du mont analogue fût connue, en dehors des membres de l'expédition. On verra plus tard que ses précautions étaient fort sages, et même qu'elles étaient insuffisantes. Si tout avait été exactement conforme aux déductions de Sogol, si un élément du problème ne lui avait pas échappé.
Cette insuffisance de précaution aurait pu aboutir à d'horribles catastrophes.